sommes de retour dans les studios de CFLX à l'émission La Rage du Peuple. On a maintenant M. Robin Philpott avec nous, avec Franck Poul, M. Francis Poulain du CREMI. Et M. Robin Philpott, vous êtes venu par l'invitation du CREMI nous parler de votre livre « Derrière l'état des marais ». Power. Donc, si on peut commencer par l'invitation du CREMI, dans quel contexte, quel organisme organise l'événement, puis par la suite, on va pouvoir passer à notre invité spécial.
OK, bien, tout simplement, Collectif régional d'éducation, médias d'information, on a décidé, vu que c'est quand même, ça fait quand même depuis les années 60 qu'il y a une convergence médiatique qui a été... amené par divers individus au Québec. Et puis, on trouvait ça tout à fait normal avec la sortie du livre de Robin de couvrir régionalement cette question-là parce qu'en région, on est tout de même victime de cette concentration-là de la presse et des médias. Fait que nécessairement, il faut développer cet esprit critique-là. Puis le livre... de M. Philpott tombait juste à point, je dirais, sur cette question-là, puisqu'il y avait, il y a très peu d'informations, mais je pense que Robin pourra en parler, mais il y a très peu d'informations sur la question. Donc, on sait qu'il y a convergence, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette convergence-là? Mais là, c'est ce qu'on pourra, c'est ce qui est développé dans le livre, c'est ce qu'on pourra savoir à soir.
Super. Et on vous écoute, M. Philpott. Vous me disiez tout de suite avant de commencer, tout de suite avant d'entrer en onde, que vous êtes aussi animateur dans une radio communautaire à Montréal.
Oui, oui, ACBL, la radio communautaire de l'Est de Montréal, Radio Montréal, on appelle ça. C'est un des pionniers de la radio communautaire. Puis ça fait quelques années. Puis d'ailleurs, j'ai commencé à faire cette émission-là avec d'autres. Mais maintenant, c'est mon émission, ça s'appelle « L'effet versant », l'autre versant de la montagne d'information. L'objectif, c'est vraiment de contrer la convergence parce que c'est une plaie de notre temps là, au Québec. C'est une affaire grave. Puis des fois, on ne mesure pas l'influence. Comment ça a une influence sur nos
sur la qualité de l'information.
Sur la qualité de l'information et sur les tas de questions là, qu'on va se poser là, sur notre avenir collectif. Politique, économique et autres. Alors, donc, voilà, c'est pour ça que j'ai été aussi... je fais de la radio communautaire aussi.
OK.
Mais ce livre-là, on peut dire que c'est un peu la même démarche. Ce livre-là, j'ai mis un an et demi pour essayer de cerner qu'est-ce que c'est Power Corporation.
Un an et demi? Et
un an et demi de recherche.
OK. Bon,
et rédaction d'un livre. Et j'ai pris cette idée de l'état des marais.
OK.
Ça veut dire un État dans un État, une entreprise qui a plus de pouvoir que l'État lui-même, l'État okay. du Québec.
Ben oui.
Et c'est pas moi qui ai inventé cette idée-là, c'est une idée qui a été lancée en 1968
okay.
à l'Assemblée nationale du Québec. On parlait de cet État dans l'État qui était Power Corporation.
Déjà à cette époque-là?
Au moment où il a acheté la Tribune, je pense que c'était à ce moment-là, mais au moment où il a acheté la presse, puis il voulait mettre la main sur le soleil.
Okay.
Et donc, c'était Yves Michaud qui était député libéral à l'époque de Saint-Hyacinthe et qui était libéral, puis on demandait une création d'une commission d'enquête là-dessus et ça a été créé par l'Union nationale aussi. Alors, cette commission d'enquête sur la concentration des médias et en particulier la concentration dans les mains de Paul Desmarais. Et donc, c'est une idée qui revient. Et puis, en 72, Pierre Godin, qui est le biographe de René Lévesque, on va regarder ce soir, les gens vont regarder ce soir de nouveau son l'émission de René, sur René Lévesque, mais c'est d'après la biographie de Pierre Godin. Et puis, en 72, il a dit, le groupe Desmarais Power occupe une position dominante pour influencer l'orientation constitutionnelle, économique et sociale de l'État québécois actuel et futur. Donc, en 72, on parlait de ça. Puis je dirais, on s'est endormi. On n'en parlait plus.
Ça n'a pas disparu, le problème est continué, mais on arrête d'en parler.
Et ça a empiré. Ça a okay. empiré parce que parallèlement à ça, vous avez eu une concentration avec Québecor. Québecor est né...
parallèlement?
Mais lors de la grève de la presse en 72, le Journal de Montréal a vraiment pris son élan à ce moment-là. Mm-hmm. Mais maintenant, on est dans une situation désolante où on a deux familles. On a Québécois, puis on a, ensuite on a Desmarais et Jessica, et Radio-Canada qui travaillent ensemble. Alors, ça fait que le paysage médiatique est extrêmement désolant. Et l'autre idée de l'État Desmarais, c'est en fait M. Parizeau qui avait, entre autres, lancé cette idée-là à la veille du référendum. Et il disait que dans les années 80, on avait ce qu'on appelait l'État provigo, parce qu'on avait cette Québec Inc. qui prenait une place. Puis il dit là, en 95, c'est l'État Desmarais. Et le premier et Daniel Johnson, le premier ministre chrétien à l'époque, il n'écoute pas les Québécois et les Québécoises, il écoute la famille Desmarais.
Okay.
Alors, c'est une idée qui est continue, mais l'absence d'informations sur cette famille-là, sur cette entreprise-là, sur la façon dont il fonctionnait, était extrêmement surprenante. Et bon, ben là, j'essaie de combler ce vide-là, puis d'arriver avec un peu une analyse de quelle est son influence, quels sont ses intérêts, et à quel point les Québécois doivent prendre conscience que leurs intérêts et les intérêts de Power, c'est pas convergent.
OK, c'est pas... Okay.
Non. Alors, ils ont des intérêts comme une entreprise privée, avec des intérêts notamment dans la privatisation de la santé, parce que le vache à lait de Power, c'est les assurances. Et la seule façon d'augmenter les profits là-dedans, c'est de la privatisation de la santé.
OK.
Et leurs intérêts en Europe, c'est surtout le pétrole, le gaz et l'eau.
Ça, c'est encore Power Corp.
Alors, Power Corp n'a plus d'intérêt au Québec. À part ces journaux-là, zéro.
Okay.
Depuis 89, il a vendu la perle de son empire au Québec, qui était la Consolidated Bathurst, donc la plus grande papetière québécoise, après avoir profité des largesses de l'État et du peuple québécois pendant un demi-siècle. Il a vendu pour 2,3 milliards. Il a pris cet argent-là, puis elle a investi partout, sauf au Québec. Donc, c'est là qu'il est devenu dans les ligues majeures internationales. Donc, sur le plan économique, son rôle au Québec est très limité. Mais sur le plan politique, son pouvoir est démesuré, est énorme.
Oui, je pense que M. Paul Desmarais a même un manoir dans Charlevoix dans lequel il reçoit, comme par exemple Nicolas Sarkozy, aussi des
le
ministres.
Le roi de la Belgique, les pères Bush, la famille Bush.
Le ministre de l'essence d'Arabie Saoudite. Non,
il s'entoure de ces gens-là. Et il y a une influence politique énorme dans le monde. Quand je suis allé en Europe pour faire des recherches, j'ai rencontré un journaliste économique français qui disait le seul homme d'affaires européen qui se compare à lui, c'est Silvio Berlusconi.
Ah ouais.
Ouais. La différence, c'est que Berlusconi fait de la politique ouvertement et lui le fait en arrière et tire des ficelles. Et je pense que, tu sais, le monde commence à se rendre compte. J'espère que ce livre-là va aider. Mais on a eu deux événements depuis un mois. L'arrivée de Sarkozy, où il insulte la moitié de la population en disant que c'est des gens fermés.
Quand il est venu au Québec.
Insulté tous ceux qui auraient voté oui. Ont voté oui. Vraiment une insulte incroyable.
Ouais.
Et ça, c'était vraiment une suite aux interventions de Desmarais. Là. C'est clair et net. Depuis 1995, Desmarais s'est approché de lui. Puis là, il a gagné une manche dans cette bataille sur l'avenir du Québec. Ensuite, vous avez l'histoire de la Caisse de dépôt. Le rôle de Desmarais n'est pas si visible que ça. Sauf que Henri-Paul Rousseau savait fort bien que ça allait vers la catastrophe à la Caisse de dépôt. Mmh. Il le savait. Au mois de mai, il a quitté la barque et qui est-ce qu'il a ramassé? C'est Power Corporation.
Okay,
il est rentré là.
Il est allé acheter beaucoup de parts dans la Caisse de dépôt ou il a redirigé la Caisse de dépôt par soi-même?
Bien, il dirigeait la Caisse de dépôt puis ça n'allait pas bien.
Okay.
Ça n'allait pas bien. Il avait investi beaucoup à Power Corporation, des montants énormes. Mais il savait que ça allait mal. Et Desmarais, il est venu la rescaper, là. Lui a donné un poste décoratif. Donc, il est vice-président du conseil d'administration de Power Corp. C'est pas fort, ça. Et là, il se cache. Et là, quand c'est le moment pour les Québécois de savoir qu'est-ce qui s'est passé à la Caisse, qu'est-ce qui s'est passé à cette formidable institution qui peut être utile pour le développement économique du Québec. Au lieu de venir parler devant les institutions québécoises, devant les élus, il choisit d'aller à la Chambre de commerce de Montréal. Mm-hmm. Mais qui est la présidente de la Chambre de commerce de Montréal?
C'est Hélène Desmarais.
Hélène Desmarais.
OK, ouais, ouais.
Alors, il, vraiment, là, et ça, c'est tout coordonné avec le gouvernement Charest.
OK.
Alors, oui, oh, oui, oui, oui. Ce Charest avait... C'était une crise. Il fallait qu'il limite les dégâts. Donc, il organise ce genre de choses-là. Et c'est pas la première fois, Desmarais, j'explique ça, qu'il a déjà fonctionné comme ça. Il passe par la Chambre de commerce pour éviter de respecter un peu le processus démocratique québécois.
Okay.
Donc, c'est dans ces deux cas. Là, on a la nomination de Tessier. Ben, Tessier, sa filière Power, elle est là. Tessier était dirigeant de Gaz Métro. Et avec Gaz Métro et Gaz de France.
De Power Corporation.
Non, c'est pas ça, mais le projet Rabaska, qui est près de Québec, de gaz naturel liquéfié,
ouais.
C'est un projet, entre autres, de Gaz Métro et de Gaz de France. Alors, mais Gaz de France, c'est contrôlé maintenant par Desmarais.
Mm-hmm. Suite à une privatisation de Sarkozy, voilà. Une semaine après qu'il soit allé au manoir de Desmarais.
Ben, c'est un peu ça, c'est à peu près ça. À peu près ça. C'est
ça,
pas exactement,
ça,
mais c'est ça. C'est exactement
ouais,
c'est ça. Alors, c'est donnant. Puis là c'est, donc, Tessier est celui pour Gaz Métro qui a défendu Gaz Métro, l'histoire de Rabaska. Et donc, il y a son lien là. Donc il est. Je pense que si on creusait encore plus, on trouverait ce lien là. Donc, je pense qu'on a une situation où il est l'heure. Pour les Québécois, d'évaluer quels sont leurs intérêts, surtout avec la crise économique, puis essayer de distinguer leurs intérêts de ceux de Power Corporation.
Mmh. Guillaume, est-ce qu'on va aller faire une pause musicale?
Oui, puis j'en profiterai pour glisser un mot, puis dire que je crois que les intérêts du peuple ont toujours été diamétralement opposés à ceux de la bourgeoisie. Donc,
voilà.
On va écouter une chanson de Renaud, « Où est-ce que j'ai mis mon flingue? » Excusez-moi, c'est une chanson de Jacques Brel qu'on va l'écouter finalement.
D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits, avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupit, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres. La mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui mord d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Et puis il y a la toute vieille qui en finit pas de vibrer et qu'on attend qu'elle crève vu que c'est elle qui a l'oseille et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. on compte. Et puis, y a Farida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Farida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être, parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais vu de chat, ou alors il y a longtemps, ou bien j'ai oublié, ou ils sentaient pas bon. Enfin, ils veulent pas, enfin, ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Je la crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas, on ne s'en va pas, monsieur, on ne s'en va pas, mais il est tard, monsieur, il faut que je rentre. Chez moi.
On est de retour dans les studios de CFLX à l'émission La Rage du Peuple. Nous sommes toujours avec l'entrevue avec Robin Philpott. Donc, nous parlions de l'influence de l'État des Marais, donc l'État privé au sein de l'organisation publique. Je me demandais, M. Philpott, comment est-ce qu'on peut mettre en perspective le pouvoir de Paul Desmarais sur, on a parlé tout à l'heure de la Chambre de commerce de Montréal. Sa fille est présidente de la Chambre de commerce de Montréal.
Ça brûle.
Mm-hmm. OK, ouais, c'est Hélène Desmarais. Ouais, c'est bon. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres institutions qu'on peut affilier à l'Empire Desmarais? Et comment est-ce que, mettons, par rapport à Pelado, c'est quoi le jeu avec Conrad Black et tout ça?
Il y a plusieurs commentateurs canadiens-anglais qui disent que Paul Desmarais, c'est l'homme d'affaires, Paul Desmarais, puis là, je dis le fils Paul Desmarais, puis l'autre fils André, là, on parle de, mettons, de la famille.
OK, parce qu'il y a plus qu'un Paul Desmarais.
Oui, il y a le père qui a 80 ans, là, okay. Proche de Sarkozy, mais il y a le fils Paul Desmarais Junior, qui a un domaine pas loin d'ici,
à Magog.
Magog. Mais il disait que c'est l'homme d'affaires canadien qui a le plus de pouvoir politique au Québec et au Canada. Donc, okay. J'ai remarqué, c'est qu'il a une vision politique très à droite, hein, mm-hmm. très à droite, plus okay. à droite que l'image qui est souvent diffusée à son sujet. Il est beaucoup plus pro-Reagan. Reagan, c'est son héros. Hein. Et comment il exerce sa politique? Ben, il y a une présence de sa famille et des gens proches de lui un peu partout. Et on mentionnait Hélène Desmarais, qui est un peu partout, vraiment. Là. Elle est présidente de la Chambre de commerce, présidente du conseil de HEC Montréal,
ouais,
présidente de l'Institut économique de Montréal.
Donc, qui fait les études, qui propose la privatisation tout le temps.
De la santé.
Ouais, mm-hmm.
Et puis, ils sont toujours là, ils sont toujours en train d'attaquer. Mais bon, il influence ça. L'Institut, vous connaissez peut-être Michel Nadeau, qui est souvent interviewé à la télé, l'Institut sur la gouvernance des organismes mm-hmm. publics et privés, elle est dans le conseil d'administration. Donc, ils sont présents un peu partout. Ça ne veut pas dire qu'ils contrôlent totalement, mais ils compromettent des gens. Okay. Et une personne que j'ai interviewée qui a demandé l'anonymat, mais je vous dis que c'est une personne très, très respectée et très bien placée dans le milieu des affaires au Québec, a dit Paul Desmarais a toutes sortes de façons de compromettre des gens. Les offres de position, des postes, des ouvertures, des invitations, toutes sortes de façons de faire en sorte que les gens, un peu, sont dans sa poche. Ils sont influencés, ils ne vont pas l'attaquer. Et si vous remarquez sa façon de fonctionner avec des gens qui sont, bon, éventuellement, pouvoir être premier ministre ou avoir une influence politique, ce qu'il fait, c'est qu'il quand ils sont dans un creux politique, Le cas de Sarkozy est clair. Mm-hmm. Sarkozy a perdu en 1995 parce qu'il avait appuyé le mauvais poulain. Là. Il avait appuyé Balladur contre Chirac. Et c'est à ce moment-là que Desmarais est devenu proche de lui. Il a fait la même chose avec René Lévesque en 1973, mais Lévesque a refusé. En 1973, René Lévesque a perdu l'élection. Il était dans un creux. Et Desmarais, par le biais de la presse, lui offre un poste de 100 000 $ pour être un grand reporter. L'évêque a refusé. Mais l'attitude, l'idée, c'est de tu les prends quand ils sont dans un creux.
À ce titre-là, sur Wikipédia, on apprend que Paul Desmarais était l'ancien employeur de Pierre-Éliott Trudeau, Jean Chrétien, Paul Martin et Brian Mulroney.
Petits... Trudeau a commencé sa campagne à la direction du Parti libéral dans les bureaux de la chose. Je raconte ses liens avec Daniel Johnson, père. Mm-hmm. Père. Daniel Johnson, fils, qui était premier ministre par la suite, son seul emploi était avec Power Corp jusqu'à temps qu'il se lance en politique. Non, mais c'est vrai, là, c'est clair et net. Paul Martin travaillait pour lui. Brian Mulroney était son avocat d'affaires dans les relations de travail avec la presse. Alors, il avait ces gens-là, sinon contrôlés, mais... Et puis bon, Jean Chrétien, quand il a perdu en 84 aux mains de John Turner... Il est rentré dans les conseils d'administration d'entreprise de Power. Bon, puis sa fille est mariée au fils d'André, de Paul Desmarais. Donc, c'est une pieuvre tentaculaire, comme disent certains. Donc, il influence la politique, mais c'est l'influence soft. Là.
Il tire vraiment des ficelles. Là.
Il tire des ficelles. Littéralement. Il tire des ficelles. Il fait en sorte que les gens se taisent. Et jusque dans les... Et là, on n'a pas parlé des médias, beaucoup, mais quand on pense que 70 % de la presse écrite au Québec lui appartient, là, y compris la Tribune de Sherbrooke, on ne verrait pas dans ces journaux une critique de cette entreprise-là.
Okay.
Dans ce livre-là, mon livre, il n'y a même pas eu de recensement ou d'identification, ne mention dans aucun journal, à ce que je sache, qui appartient à Jessica. Et parallèlement, comme ils ont des ententes secrètes, des ententes avec Radio-Canada, Radio-Canada, c'est presque le silence aussi de là-dessus. Alors, vive la radio communautaire.
Puis à ce niveau-là, je vous poserai la question suivante, à savoir, est-ce que vous avez envisagé peut-être l'éventualité d'un slap de la part de Power Corporation?
Écoutez, on a fait attention, on a fait vérifier ça par un avocat spécialiste, puis... Mm-hmm. Je tenais à ce que le livre sorte, parce que Paul Desmarais avait dit, il a cité dans plusieurs journaux, il a dit, si un livre sort sur moi et il est bon, j'achète 500 copies. S'il n'est pas bon, je les achète tous. Alors, mon éditeur était prêt, là, parce que là, il aurait fait de l'argent. Mais donc, ils avaient le choix ou bien de poursuivre ou bien de faire un semblant que ça n'existait pas. Donc, c'est ça qu'ils ont choisi, là. Parce que, bon, ben, il y avait peut-être. Moi, j'ai fait attention de ne pas laisser de prise. Mes sources sont documentaires, sont sûres. Et je ne m'emporte pas. Je laisse au lecteur le soin de s'emporter en le disant. Alors, je ne m'emporte pas avec un vocabulaire excessif, là.
Ouais, ça ne vaut pas la peine. Donc, je pense que c'est tout le temps qu'on avait, malheureusement.
Donc,
j'ai
une conférence ce soir.
Ben oui, allez-y.
Oui, c'est ça. Il y a une conférence au tremplin 16:30 pour les personnes, les auditeurs, auditrices qui seraient intéressés à en savoir plus à 19h au tremplin 16:30, 95 Wellington Sud. C'est gratuit. Puis
je vais dire, le titre du livre, là, c'est « Derrière l'état des marais, Power », publié aux Intouchables, puis disponible... Je l'ai vu dans les librairies ici à Sherbrooke, puis partout au Québec.
Là. Dans les librairies indépendantes de Sherbrooke, on en a fait mettre la semaine dernière.
Ah oui, OK, c'est bon, il n'était pas encore.
Dans les grosses librairies, oui, mais dans la petite librairie juste ici sur Wellington, maintenant, c'est là.
Ben, formidable.
Ça. Voilà.
Bon, on vous remercie beaucoup d'être passé puis d'avoir pensé à nous, à votre passage à Sherbrooke.
Merci de m'avoir invité.
Oui, puis tout de suite après la pause, on va recevoir en studio Virginie et Alexis qui vont venir nous parler, entre autres, d'une conférence qui va se tenir demain à l'Université de Sherbrooke et qui va porter sur le sujet des Autochtones au Québec.
Donc, on se voit tout de suite après la pause.
Rouge pour la vie.
Orange pour la fierté.
Jaune pour le soleil.
Vert pour la sérénité.
Indigo pour l'harmonie.
violet pour l'esprit.
Découvrez toutes les couleurs de l'homosexualité et de la diversité sexuelle à l'émission Couleurs vives, tous les mardis à 22h sur les ondes de CFLX 95,5 FM.
Seriez-vous fatigué du froid hivernal? Eh bien, n'ayez crainte, car le Croque-Notre Show reste au rendez-vous pour une hausse de chaleur. Sous les rythmes de la musique d'ici ou d'ailleurs, au cœur de l'actualité, ne manquez pas le Croque-Notre Show, tous les mardis soirs de 6 à 7, avec votre animateur Guillaume Genet, sur les ondes de CFLX 95,5.
CFLX présente en projection l'album 42 de Saint-Pierre. Premier album de cet artiste, qui se considère comme un auteur-compositeur céleste, nous offre 12 titres à la sauce variée entre folk, jazz et électronique. On écoute un extrait.
Ça m'arrive souvent.
Sur cet album, Saint-Pierre aborde les thèmes de l'exil, de la femme, du temps qui passe, bref, de la vie. Réalisé par Mathieu Dion de Québec, l'album est un exercice de collaboration à distance, les instruments ayant été enregistrés à Vancouver et les voix à Québec. L'album 42 de Saint-Pierre vous amènera d'un bout à l'autre du pays.
CFLX 95,5 FM, la radio communautaire de l'Estrie.
Et dans vos fauteuils, alors écoutez-moi un peu les pouces mégots et les nez de bœufs, les ringards, les folk, les journaleux. Puis qu'il y a mon nom dans vos journaux, qu'on voit ma tronche à la télé, où je vends ma soupe empoisonnée. Vous m'avez un peu trop gonflé. Je suis pas chanteur pour mes copains et je peux être teigneux comme un chien. Je déclare pas avec Aragon que le poète a toujours raison. La femme est l'avenir des cons et l'homme n'est l'avenir de rien. Moi, mon avenir est sous le zinc d'un bistrot des plus cralingues. Mais bordel, c'est que j'ai mis mon flingue. Je vais pas me laisser emboucaner par les fachos, par les gauchos, tous ces pauvres mecs endoctrinés qui foutent ma révolte au tombeau. Tous ceux qui me traitent de démagos dans leur torchon, je n'irai jamais. Renaud, c'est mort, il est récupéré. Tous ces petits bourgeois incurables qui parlent pas, qui écrivent pas, qui bavent, qui vivront vieux leur vie minable, ont tous dans la bouche un cadavre. De toute façon, je chante pas pour ces blaireaux et j'ai pas dit mon dernier mot. C'est sûrement pas un disque d'or ou un Olympia pour moi tout seul qui me feront virer de bord, qui me feront fermer ma gueule. Tant qu'il y aura de la haine dans mes seringues, je ne chanterai que pour les dingues. Mais bordel, où c'est que j'ai mis mon flingue? Y'a pas que les mômes dans la rue qui me collent au cul pour une photo. Y'a même des flics qui me saluent, qui veulent que je signe dans leur calot. Moi je crache dedans et je crie bien haut que le bleu marine me fait gerber. J'aime pas le travail, la justice et l'armée. C'est pas demain qu'on verra marcher avec les connards qui vont aux urnes choisir celui qui les fera crever. Moi ces jours-là je reste dans ma turne. Rien à foutre de la lutte de classe, tous les systèmes sont dégueulasses. Je peux pas encaisser les drapeaux, quoique le noir soit le plus beau. La Marseillaise, même en reggae, ça m'a toujours fait dégueuler. Les marches militaires, ça me déglingue, et votre république, moi je la tringle. Mais bordel, c'est que j'ai mis mon flingue. Puis qu'on m'a tiré mon canif un soir au métro Saint-Michel. Je peux plus les pieds dans une manif, sans un nunchak ou un cocktail. À Longwy comme à Saint-Lazare, plus de slogan face aux flicards. Mais les fusils, les pavés, les grenades, gueuler contre la répression en défilant Bastille Nation. Quand mes frangins crèvent en prison, ça donne une bonne conscience aux cons, aux nez de bœuf et aux pouces mégots qui foutent ma révolte au tombeau. Si un jour je me retrouve la gueule par terre, sur ça sera de la faute à Balère. Si je crève le nez dans le ruisseau, sur ça sera de la faute à Bono. Pour l'instant ma gueule est sur le zinc d'un bistrot des plus cralingues. Mais faites gaffe, j'ai mis mis la main sur mon flingue.
On vient d'écouter une chanson de Renaud, Où est-ce que j'ai mis mon flingue, le tout à l'émission La Rage du Peuple sur les ondes de CFLX 95.5. Et puis, on a avec nous dans les studios maintenant Virginie et Alexis qui vont venir nous parler d'un événement, mais aussi d'un sujet qui va être abordé demain en conférence à l'Université de Sherbrooke. Donc, à vous deux, bonjour.
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 Donc, est-ce que vous allez bien?
Mais très bien, toi-même,
Guillaume. Oui. Puis, pour commencer, est-ce que vous voulez nous présenter, dans le fond, ce qui vous a amené à organiser la conférence de demain et puis la question qui va être bien sûr abordée?
Ah, moi, je n'organise pas. Hein. Je ne suis pas là-dedans.
Donc, moi, je suis coordonnatrice du groupe Amnesty International de l'Université de Sherbrooke. Et puis, pourquoi on a décidé d'organiser une activité sous le thème des Autochtones? C'est vraiment en raison du mandat d'Amnesty International qui vise à réaliser l'atteinte des droits économiques et sociaux des personnes. Donc, on trouvait que ça rejoignait beaucoup la question autochtone au Québec, plus spécifiquement, et puis aussi au Canada. Et puis, donc, l'activité, c'est une conférence qui va être suivie d'une projection de film « Le peuple invisible » de Richard Desjardins.
Mmh, génial. Puis, Jean-Martin, je pense que tu voulais continuer.
Oui, dans le fond, pourquoi est-ce que vous avez choisi les Autochtones en particulier? Est-ce que Amnesty International avait quelque chose d'autre dans son programme?
Actuellement, la campagne d'Amnesty International porte sur la République démocratique du Congo. D'ailleurs, on va faire un kiosque à ce sujet-là pour une signature de pétition lundi prochain sur l'heure du dîner à l'Université de Sherbrooke dans la Fac des sciences. Cependant, c'est sûr qu'on fait toujours de l'éducation populaire et puis les Autochtones, c'est un sujet de plus en plus à l'avant-plan dans les médias. Donc, on trouvait ça intéressant de s'informer à ce sujet-là et puis d'informer les gens, évidemment.
Mais je pense qu'il y a plus en plus de groupes hein, dans l'Amnesty International qui s'intéressent à la question.
Oui, effectivement. Il y a plusieurs groupes qui s'intéressent à la question autochtone et puis pas juste dans le cas des réserves, mais aussi dans le cas des évictions forcées des populations autochtones. Et puis, pourquoi on parle des Autochtones et non des Amérindiens? C'est parce que ça rejoint... tous les Autochtones, dans le fond, dans tous les pays du monde.
OK. Donc, est-ce que tu peux me donner une idée de ça va être qui le conférencier puis de quoi il va parler?
Oui, on a trois conférenciers. On en a deux qui viennent de Montréal. Donc, Christopher Campbell Duruflé, qui est étudiant en droit à McGill, qui se spécialise sur la question autochtone au Québec. On va avoir aussi Régine Debrosse, qui, elle, va couvrir l'aspect psychologique, principalement avec l'estime de soi chez les Inuits. Et puis, on a Alexis Baudet, qui est à mes côtés en studio, qui va traiter de l'aspect historique des Autochtones au Québec.
OK. Et puis, Alexis?
Oui?
Toi, tu es étudiant en histoire, c'est ça?
Oui, je suis à la maîtrise en histoire autochtone à l'Université de Sherbrooke.
OK. Donc, demain, rapidement, c'est de quoi tu vas parler?
Eh bien...
Je sais que tu voulais pas donner les cues.
Oui, mais... c'est ça. Je ne veux pas refaire la conférence ce soir maintenant, mais ce que je peux dire, c'est que les liens entre Amnesty International et la question autochtone sont indéniables. Au point de vue historique, on voit des grands paradoxes apparaître quand on regarde la question autochtone. Puis je dirais que l'existence... L'attitude du gouvernement envers les Autochtones au Canada est un des grands paradoxes de ce pays, finalement. Et puis, moi, je vais voir un petit peu les préjugés qu'on a à l'égard des Autochtones et qui mettent tout en lumière le paradoxe fondamental au Canada.
Puis, j'imagine, c'est parce que la condition des Autochtones ne s'est pas nécessairement améliorée depuis la reconnaissance de leurs droits?
Eh bien, c'est plutôt qu'on on a affaire à une seconde classe de citoyens.
Ouais.
Et quand je parle de paradoxe, c'est que alors même qu'on reconnaît le multiculturalisme comme une valeur fondamentale du Canada, alors même qu'on reconnaît dans la Charte des droits et libertés le droit inaliénable de chacun à avoir des biens, par exemple, ou tous les droits fondamentaux, finalement, ben, on a ici une classe de citoyens qui sont un peu exclus de ces idéaux-là, qui sont pourtant mis de l'avant à chaque fois qu'il y a un discours avec un unifolié quelque part en arrière.
OK. Puis, dans le fond, est-ce que Amnesty International a travaillé par le passé ou travaille actuellement sur une campagne qui vise spécifiquement les communautés autochtones au Canada? Est-ce que vous avez...
Ben, c'est quoi les luttes, par exemple, que vous avez au Canada? Est-ce que c'est une campagne large ou est-ce que vous ciblez des cas où, comme par exemple en Ontario récemment, il y a quelqu'un qui s'est fait arrêter au lac Barrière, il y a un leader autochtone qui a été enfermé. Donc, est-ce que vous faites comment? C'est quoi votre approche par rapport à la lutte? C'est la conscientisation avant tout.
C'est la conscientisation, mais aussi le but d'Amnesty International, c'est beaucoup de faire libérer des prisonniers d'opinion politique, de droit de parole ou juste de cultures différentes. Donc, c'est vraiment ça. Comment on fonctionne, c'est qu'on fait beaucoup... c'est sûr que l'éducation populaire, c'est le but demain de l'activité, sauf qu'on fonctionne beaucoup par pression sur les instances politiques en faisant signer des pétitions, des envois de lettres, des envois massifs de lettres. On a la campagne des vœux qui est traditionnellement faite à Noël, qui justement visait un Autochtone aux États-Unis, je crois, qui était enfermé en raison politique, justement. Donc, c'est beaucoup comme ça qu'on fonctionne. En ce qui a trait aux Autochtones au Canada puis au Québec, je ne pourrais pas dire s'il y a une campagne actuellement. La campagne qui est faite, comme je disais, c'est plus sur la République démocratique du Congo, la situation des femmes là-bas, les conflits politiques qui ont lieu également.
OK. Je vois que tu avais une feuille avec toi. Est-ce que c'était des choses que tu avais préparées pour dire?
Ben, on en a pas mal parlé juste avec les questions que vous m'avez posées. Et puis, je m'étais écrit deux, trois rappels sur les mandats d'Amnesty pour être sûr d'en parler, mais avec les questions, ça a été.
OK, c'est bon. Est-ce qu'on serait prêt pour aller faire une pause musicale?
Oui, bien, on va aller écouter une chanson. Je vais laisser Alexis la présenter, étant donné que c'est lui qui nous l'a apportée.
Oui, en fait, c'est une très bonne chanson que certains connaissent peut-être. C'est « Dans les premiers temps » des Séguin, quand Richard Séguin chantait encore avec sa sœur. La chanson s'appelle « Génocide ». Et puis, il y a des très, très, très belles séquences de guitare là-dedans. Et les paroles aussi sont vraiment très belles.
Donc, on revient tout de suite après. Tout ça sur les ondes de Céphélix, 95.5. Thank you.
terre, terre des ancêtres, de froid et d'air, joie et misère comme un calvaire. Une saison taillée à coups de hache, assez puisée de temps de glace au long de l'année, sans un dimanche. Je parle de gens qui sont d'ici et d'un pays de l'ancien temps. Ils étaient sauvages, on le disait, ils étaient courage, on le savait, on les a mis en cage, on les a mis.
De retour dans les studios de CFLX à l'émission La Rage du Peuple. Nous sommes toujours avec Virginie et Alexis. Alexis, Let's talk about sex.
Let's talk about sex. Is it sex or is it love?
Oh. Ouais, ben on parlait pendant la pause musicale des relations commerciales que les Amérindiens avaient initiées avec les colons anglais et français en Amérique, puis aussi les relations sexuelles qui avaient été entraînées par le fait du commerce aussi, puis du métissage.
Oui, Guillaume, peut-être un petit récapitulatif, là, l'origine de cette discussion. C'est que, en fait, on parle de citoyens de seconde zone avec Amnesty International et tout, mais pour moi qui étudie l'histoire, ce que je vois, c'est que le fait qu'on a écrasé les droits des Autochtones cache une grosse partie de notre histoire et de la mémoire canadienne et québécoise qui est mise de côté. Et quand on étudie les sources du passé, on voit qu'ils ont vraiment participé à développer l'économie, le commerce, les routes commerciales, mais aussi la culture.
Partout en Amérique du Nord, je pense.
Oui, oui. C'est pour ça que moi, je parle d'une américanité, finalement, qui est née du contact, là, de divers patterns, si on veut.
OK. Puis, dans le fond, tu voulais parler du rôle des Autochtones dans le commerce qui s'est fait, dans le fond, que... Tu me parlais durant la chanson qu'on négligeait un peu, peut-être par attitude de racisme, qu'on négligeait, qu'on voyait les Autochtones comme des personnes inférieures, mais qu'en réalité, c'était des gens qui étaient très à leurs affaires. Puis qui
étaient d'affaires, puis ce préjugé-là provient du fait... Souvent, on les prend en victime. On dit, oh, les pauvres Autochtones, notre méchant commerce...
Ça dépend vraiment d'où, par exemple. Oui. Il y a des places où est-ce qu'ils les aiment
pas. Non, il y a des places où ils ont été plus écrasés, comme les Colonial Rush aux États-Unis, où ils partaient avec la cavalerie puis ils tuaient tout ce qu'ils trouvaient.
Ah ouais.
Oh, oui, c'était assez raide. Au Canada, ça s'est fait différemment. Mais donc, souvent, en général, on pense que c'était seulement des victimes du commerce puis qui ont été simplement écrasées et tassées. Oui, ça s'est fait, mais pendant quelques centaines d'années, ils ont participé au commerce, ils ont créé les routes, puis c'était des gens d'affaires. Un bon exemple, c'est les Mandans. Les Mandans, c'est du plateau central américain. C'est une petite tribu de gens un peu différents des autres Autochtones. On dit qu'ils sont plus blancs et plus grands que la moyenne.
OK, c'était des, c'était pas des Iroquois? C'était
non, c'est des Mandans.
Ah, OK,
c'est,
OK.
Ils sont proches des Idasta aussi.
OK, ça, c'est donc, comme dans
c'est
le coin de la zone.
C'est le plateau central, Dakota du Nord.
OK.
Donc, en dessous du Manitoba, finalement,
mm-hmm.
ou dans cette région-là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est quand on étudie un peu les archives, eux autres, ils ont été dans un point central de l'histoire canadienne et états-unienne, parce qu'en quelques années, l'explorateur célèbre, en tout cas dans le Canada anglais, David Thompson, et Lewis et Clark, de l'expédition Lewis et Clark, quelques années plus tard aux États-Unis, vont arrêter dans ce village Mandan-là. Ils vont laisser des traces dans leurs journaux de voyage, des traditions des Mandans, puis de ce peuple-là. Ils vont l'analyser, tout ça. Et ce qu'on découvre, c'est fascinant, là. Quand on sait lire un peu entre les lignes, les Mandans, c'était des gens qui étaient très forts sur le commerce, puis qui étaient prêts aussi à prendre les moyens pour s'attirer la faveur, finalement, des Blancs qui voyaient comme une bonne occasion de commerce, car les Mandans eux-mêmes étaient au centre d'un vaste réseau commercial avec les autres tribus amérindiennes. Puis c'est d'ailleurs pour ça que Thompson et Lewis et Clark se sont retrouvés chez les Mandans, c'est parce qu'ils savaient qu'en allant chez les Mandans...
Ils sont croisés là ou...
Non, en fait, okay, il y a 4 ans de différence. Okay, ouais. Il y a 4 ans de différence, mais c'était un territoire contesté. Il faut voir qu'à cette époque-là, c'était pas le Canada, c'était pas les États-Unis, c'était... l'Amérique du Nord. Donc, les deux côtés se disputaient un peu le commerce. Thompson est allé pour le compte de la Compagnie du Nord-Ouest, et puis il voulait commercer avec eux. Et puis, quelques années plus tard, Lewis et Clark qui viennent, puis c'est pour les mêmes raisons. C'est sûr que le projet impérialiste jeffersonien, qui veut faire un empire nord-américain, finalement, donc qui distribue aussi des médailles, des drapeaux, ils veulent inculquer la conscience nationale, ce que Thompson ne faisait pas du tout. Mais les intérêts pécuniers, je dirais, sont les mêmes. Donc, ces gens-là étaient au centre, vraiment, d'un empire commercial. Puis c'est tout comme aujourd'hui, avec certains traités, on va tenter de rentrer dans la dynamique des gens sur le plan local pour ensuite les insérer dans notre propre commerce.
D'accord. Est-ce qu'on a le temps, avant la dernière chanson, Guillaume, de discuter encore? Ou...
Oui, il reste environ 2 minutes.
Donc, OK, là, je vous avais promis que je parlerais de sexe, je vais en parler quand même. Donc, le sexe, c'est assez intéressant chez les Mandans parce que les Mandans, comme bien des Amérindiens, étaient pas très barrés sur le sexe. Pour eux, c'était normal, puis il y avait beaucoup d'échanges entre les, des échanges de partenaires et tout. Donc, les Blancs qui arrivaient là, dans le village, eux autres, ça les étonnait énormément. Ils n'étaient pas habitués à ça. Et puis, il y avait une foule de séries, de cérémonies, pardon, des cérémonies religieuses qui étaient à caractère sexuel, qui peu à peu, au fil des ans, va se transformer pour insérer les Blancs dans ça. Comme par exemple, il y avait la bull dance chez les Mandans, donc la danse du buffalo, du buffle, ou peu importe. Et puis, on mettait les vieillards en cercle autour du feu, et les hommes apportaient leurs femmes et suppliaient les vieillards de faire l'amour à leurs femmes. Et ça, c'était pour qu'il y ait une transmission de la sagesse, et c'était aussi pour s'assurer qu'il y aurait des buffalo qui arriveraient pas loin.
Donc, OK, fait que ça, c'était un rituel.
Religieux, oui. Okay. Pour la fertilité, pour avoir de la bonne chasse et tout. Puis, mais bon, c'était des vieillards. Puis là, les hommes amenaient leurs femmes, puis ils pleuraient. Il fallait vraiment qu'ils pleurent en disant « Prends ma femme, s'il te plaît ». Donc, quand les Blancs sont arrivés, ils ont peu à peu commencé à faire ces rites-là de plus en plus souvent. Et puis, ils ont inséré les Blancs là-dedans pour avoir la sagesse du Blanc.
Okay.
Donc, donc, Lewis et Clark, c'est Meriwether Lewis, il écrit dans son journal, puis il n'en parle pas trop quand même de sexe, parce qu'il sait que ça va être lu par le président. Thompson en parle un peu plus. Mais il écrit qu'un de ses hommes a dû honorer 4 femmes le même soir. Donc, on parle d'un homme particulièrement sage.
Effectivement.
Ouais.
Bon, c'est ce qui fait le tour. On va rappeler l'événement qui va se tenir demain à l'Université de Sherbrooke.
Oui, exactement. C'est à 18h à l'Agora du Carrefour de l'Information à l'Université de Sherbrooke. C'est le gros pavillon vitré. Donc, on commence par une conférence couvrant l'aspect historique, juridique et psychologique de la condition des Autochtones au Québec. Ensuite, on va avoir une pause de 10 minutes avec une dégustation qui est une gracieuseté, une dégustation de tisane sauvage, gracieuseté de la coop de travail L'Arbre à Palarbre. Et ensuite, on va poursuivre avec la projection du film Le Peuple Invisible de Richard Desjardins.
Et c'est gratuit.
Et c'est gratuit. Donc, c'est un rendez-vous pour tout le monde. Puis, pour notre part, c'est ce qui fait le tour de l'émission de La Rage du Peuple de cette semaine. On se dit à bientôt. On va aller écouter une chanson, d'ailleurs, de Richard Desjardins, Les Yankees, une excellente chanson, d'ailleurs.
Oui. Avant de quitter, je vous invite à aller faire un tour sur notre blog. On vient de mettre un nouveau billet sur la grève générale qui s'est terminée aux Antilles. Donc, rendez-vous au ucl-sherbrooke.blogspot.com.
À plus!
Dormait dans son verseau, les chèvres buvaient au rio. Nous allions au hasard et nous vivions encore plus fort malgré le fret et les barbares. Nous savions qu'un jour il viendrait à grands coups d'axe, à coups de taxe, nous traverser le corps de bord en bord. De la terre. Le vieux Achille dit à soi, c'est un peu trop tranquille. Ami, laissez-moi faire le guet. Allez. Dormez en paix. n'est pas le bruit du tonnerre, ni la rumeur de la rivière, mais le galop.
Ne vous laissez pas intimider par les musiques expérimentales. Délirantes, dérangeantes, elles savent aussi divertir, questionner et stimuler. Chaque semaine, François Couture vous propose nouveautés, portraits et thématiques couvrant tout le vaste spectre des musiques d'avant-garde. Ne manquez pas Délire actuel, le mardi à 20h.
Voici la météo sur l'Environnement Canada en ce mardi 17 mars. Pour ce soir et cette nuit, il y aura quelques nuages. On prévoit un minimum à plus 1 degré. Et pour demain, mercredi, ce sera un ennuagement graduel avec 60 % de probabilité d'averse. La pluie débutera en soirée. On prévoit un maximum à 8 degrés. La météo à CFLX vous est présentée à toutes les heures. CFLX 95,5.
La radio communautaire de l'Estrie.
Bonsoir et bienvenue à une toute nouvelle émission du Croc Nut Show avec votre animateur Guillaume Genet et la co-animatrice préférée de tous les, les auditeurs, Rachel.
Oui, de tous les Américains, de tout l'univers entier. Bonjour Guillaume, bonsoir plutôt. On se croirait encore le jour, donc c'est pour ça que j'ai dit bonjour.
Ah oui, mais il est 6 heures.
Il est 6 heures.
Dans la soirée.
Exactement. Ben oui, on est dans la soirée bien avancée même, mais c'est juste qu'il fait encore clair, donc voilà.
Alors, voilà.
Oui.
Alors, nous allons commencer, Rachel, avec notre chronique 365 jours autour du monde. Mm-hmm. Eh bien, en fait, aujourd'hui, nous sommes le 17 mars, pour ceux qui ne sont pas au courant, et nous sommes le 76e jour de l'année. Il reste 289 jours avant la fin de l'année.
C'est bien ça, on se rapproche.
Ah oui! Eh bien, 17 mars, nous retournons en -45, qui était la victoire de Jules César à la bataille de Mont-